Une enseigne de supermarché chinois l'appelle à la prière du muezzin. Le vent, léger vent de sable, une ville plate au bord de l'océan que l'on ne voit pas. La ville en chantier toujours trouée de terrains vagues avec des boutiques ouvertes jusqu'au bout de la nuit, des néons. Hommes en boubou bleu et blanc, vaste mélafa coloré pour les femmes, la rue, la ville, autant d'images comme les pages d'un livre, le pays comme un roman.
Pascal Paradou.
Nouakchott, capitale de la Mauritanie et lieu de rendez-vous d'une vingtaine d'écrivains pour le festival Les Traversées Mauritanides, dont la 16e édition vient de s'ouvrir. L'occasion pour nous de découvrir le pays aux millions de poètes, c'est ce qui se raconte, et tenter un rapide panorama de la littérature dans ce pays qui a longtemps été peuplé de nomades et dans une ville qui ne comptait que quelques centaines d'habitants il y a un siècle au début de la colonisation française. Avec nous, trois invités. Beyrouk, l'écrivain le plus connu à l'étranger. Bonjour.
Bonjour.
Le plus traduit aussi, vous êtes traduit dans combien de langues ?
En anglais et en espagnol.
Deux langues seulement ?
Oui, seulement.
Mais les plus parlées. Dernier roman en date, Sahara, et je sais qu'un nouveau est annoncé pour le mois de mars prochain. Avec vous, Mariam Derwige, chroniqueuse, vous avez écrit pendant très longtemps dans l'hebdomadaire Le Calam pour raconter le quotidien de la Mauritanie, entre autres, mais vous êtes aussi poète, poétesse, avec un livre et un blog intitulé « 1001 jeux », jeux comme le pronom, et cette multiplicité commence avec votre passeport. Bonjour Mariam Derwige.
Bonjour.
Vous êtes autant française que mauritanienne ?
On va dire ça comme ça, oui, je suis métisse. Cochon d'Inde, j'appelle ça.
Métisse cochon d'Inde. Oui. Et vous écrivez en français et en arabe ?
Non. Alors j'écris en français parce que c'est ma langue maternelle et on écrit et on rêve dans la langue de sa mère. Et donc comme ma mère était française, c'est ma langue d'écriture.
Et jamais en arabe ?
Jamais, parce que je ne rêve qu'en français et je ne parle qu'en français. Et surtout, le français m'a ouvert des possibilités de m'exprimer sur des choses que... Chaque langue est une image de la culture qu'elle véhicule. Et il y a des concepts qui n'ont existé qu'en français. Par exemple, démocratie, laïcité, bien que ça, cela se discute. Voilà, donc c'est une langue qui m'a ouvert le monde.
Avec vous aussi, un universitaire, Ndiaye Sarr. Bonjour.
Bonjour.
Enseignant en lettres modernes francophones à l'université de Nouakchott. Est-ce que l'on parle d'une littérature mauritanienne ou doit-on parler de littérature au pluriel mauritanienne ?
Oui, je pense qu'on doit parler de littérature mauritanienne au pluriel, puisqu'il y a plusieurs littératures qui représentent les différentes ethnies qui se trouvent en Mauritanie. Donc on peut parler de littérature mauritanienne au pluriel.
Donc ce sont les langues qui déterminent les littératures.
Exactement. Chaque communauté a sa propre littérature. Mais je pense qu'ici, ce qui nous intéresse, puisque nous avons Barakoul Beyrouk et Mariam Derwige, on va parler de littérature francophone.
Quelle est la part de la littérature francophone et de la littérature arabophone, puisque ce sont les deux langues majoritaires quand même ?
Alors, la littérature, une part importante, le français aujourd'hui fait partie du patrimoine linguistique mauritanien. Donc la littérature mauritanienne francophone, naturellement, occupe une place importante dans le patrimoine culturel mauritanien.
Pour autant, c'est une littérature assez jeune. Je crois qu'elle est née avec l'indépendance.
Elle est née, oui, après l'indépendance, en 1965, avec Poème Peul moderne de Oumar Ba. Elle est née avec la poésie. En 1967, Hassan Youssoufi Diallo publie un recueil de poésie intitulé Les Dames. Et ensuite, en 1977, dans les années 70, Jibril Zakaria Sall, commissaire poète, publie des recueils de poésie. Donc c'est une littérature très jeune comparée à nos voisins, à la littérature marocaine ou sénégalaise. Oui, très jeune, née en 1965.
Est-ce que ces deux littératures, donc arabophone et francophone, ces deux mondes se connaissent, se traduisent ou s'ignorent, Mariam Derwige ?
Il fut un temps, au lendemain des indépendances, comme c'était le français qui était enseigné, donc ceux qui avaient été à l'école, les gens se lisaient. Et quand je dis les gens, une certaine élite se lisait. Donc pendant longtemps, il y a eu cette littérature en français. Et petit à petit, avec l'évolution idéologique du pays, avec cette recherche de racines, qu'est-ce que c'est que la Mauritanie ? Parce que c'est un pays qui était fictif, on le voit avec le traçage des frontières. Qu'est-ce que c'est qu'être mauritanien ? Donc la langue arabe a été mise en avant, donc est apparue une littérature contemporaine arabe. Mais au niveau de ce qu'on va appeler l'écriture contemporaine, de moins en moins les gens se lisent. Puisqu'il n'y a plus cette langue qui fait ciment, qui faisait lien, et bien ceux qui écrivent de magnifiques écrivains complètement arabisants et totalement ignorés souvent, d'autres magnifiques écrivains, Halpoulard ou Sonke ou Wolof, qui ne connaissent pas l'arabe. Donc en fait, on est dans un pays où les littératures se rencontrent rarement, mais elles se côtoient. Et les gens ne se connaissent pas.
Mais est-ce qu'elles se traduisent du coup ? Est-ce qu'il faut traduire à l'intérieur même du pays ?
Alors moi, si on me pose la question, il devrait y avoir cet effort. Après, matériellement, c'est très compliqué. Mais il y a eu l'exemple de Cheikh Nour, par exemple, qui a fait découvrir aux jeunes arabisants Ousmane Moussa Diagana, qui écrivait en français, qui est mort. Et il a traduit Ousmane Moussa Diagana. Et ça a été une révélation dans des milieux arabisants. Ils ont découvert qu'un homme, un Mauritanien, avait écrit de la poésie absolument magnifique. Et il a traduit en arabe. Et dans l'autre sens, moi, je me rappelle avoir discuté avec des amis Halpoulard qui parler politique, comme d'habitude, parce que l'écriture est politique en Mauritanie. L'écriture, elle a une couleur, elle a une idéologie, et qui parlait des événements de 89, cette espèce de fracture où la grande fracture a commencé. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous savez que chez les arabisants, il y a eu déjà des livres qui ont été écrits sur les événements de 89, des événements qui ont été dénoncés. Ah bon ? Je dis, mais oui. Je dis, mais comment peut-on vivre dans un pays où on ignore ce que la communauté, nos voisins, écrivent, disent, pense.
Beyrouk, toute votre œuvre est en français. Or, le français a perdu son statut de langue officielle depuis 1979, avant même que vous commenciez à publier. Est-ce que pour vous, c'est une langue de patrimoine ? Est-ce que c'est une façon de faire vivre cette langue, de résister que vous avez choisi le français ? Ou, comme disent d'autres écrivains, je ne sais écrire que dans cette langue ?
C'est vrai. Moi, j'ai dit souvent que j'ai rencontré le français un peu par hasard parce que mon père enseignait le français, parce qu'il m'a fait lire Victor Hugo très jeune encore. Et depuis qu'il m'a fait lire Les Misérables, je suis tombé définitivement amoureux de Victor Hugo et de la langue française. Le français est un choix pour moi. C'est aussi un engagement.
Parce que vous avez eu un bon prof de français comme Léon Ndiaye Sarr, par exemple, même si vous n'avez pas pu être votre prof, c'est plutôt l'inverse.
Malheureusement, je n'ai pas eu un prof comme Ndiaye Sarr, mais mon père était un instituteur qui aimait la langue française, qui enseignait le français. Et il nous disait que quand on apprend le français, quand on apprend Voltaire, quand on apprend Rousseau, on ne peut plus être réduit en esclavage, quand on apprend la liberté. Et en même temps, il était amoureux de la langue française et en même temps, il était indépendantiste.
Mais est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu isolé, peut-être en tant qu'écrivain francophone,
non,
dans un pays où l'arabe est la langue officielle ?
Je ne peux pas me sentir isolé parce que c'est, comme j'ai dit, c'est un engagement, c'est une passion. J'aime écrire en français, j'aime lire en français, j'aime la langue française. J'aime aussi la littérature arabe, mais je suis avant tout amoureux des lettres françaises.
Alors en Mauritanie, s'il y a des écrivains, il y a aussi des musiciens dont certaines font une très belle carrière à l'international. Et c'est le cas de la griotte Noura Mint Saïmali, qui joue comme personne ne la hardine avec quelques ajouts de rock ou de blues. Et elle vient de sortir un nouvel album, Yen Bet.
Sudah iba, 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 sudah iba
Nouramine Saïmali sur RFI et à Nouakchott où nous sommes pour quelques jours pour le festival littéraire Les Traversées Mauritanides avec Mariam Derwish Beyrouk et le professeur Ndiaye Sarr. Professeur, y a-t-il des thèmes de prédilection ou des genres si on doit parler de littérature francophone? Et là, je ne parle que de littérature francophone.
Oui, il y a des thèmes de prédilection. À mon avis, les thèmes, ce sont les thèmes qui sont liés aux préoccupations de la Mauritanie contemporaine. Par exemple, les questions les thèmes liés à la marginalité que Barekul Beyrouk aborde dans son œuvre romanesque, les questions qui sont liées à la condition de la femme, qu'il aborde également dans ce roman, en confiant parfois la narration à des personnages féminins qui se révoltent contre le groupe, pour affirmer une volonté de s'émanciper, une volonté de liberté. Et ce sont peut-être les thèmes aussi que Mariam Mint Derwish aborde dans Mille et un jeux. Mille et un jeux, le titre en soi est symbolique. Mille et un jeux peut-être renvoie à mille mauritaniennes, peut-être qui ploient sous le joug de la tradition ou sous le joug du patriarcat. Donc voici un peu les thèmes qui reviennent ou les thèmes qui sont liés à l'unité nationale, à la cohabitation entre différentes ethnies en Mauritanie. Alors, par rapport au genre, il y a évidemment un genre dominant, c'est le roman, même si la poésie, la littérature mauritanienne naît avec la poésie. Le roman, à mon avis, est le genre le plus dynamique et la preuve, Barek a publié 7 ou 8 romans. Et il fait partie aujourd'hui de l'une des figures majeures du roman mauritanien francophone.
Alors justement, Beyrouk, dans votre dernier roman, Sahara, qui est le nom d'une héroïne qui se définit comme une femme libre et qui a refusé la pression sociale et religieuse, et toute la tension du livre est dans cette opposition entre la tradition et la modernité. Est-ce que vous avez le sentiment de pointer une des grandes tensions, un des grands sujets de la société mauritanienne?
J'ai surtout la tentation de mettre en exergue des sentiments, des passions, des contradictions, des conflits, des vies. Je n'ai pas une vocation d'être sociologue, ni d'être critique politique, ni d'être critique sociale. J'essaie d'écrire les autres, j'essaie de nous écrire, j'essaie aussi un peu de m'écrire.
Donc avec des figures très libres, très modernes et d'autres très traditionnelles, comme ce cheikh par exemple dans le roman qui refuse la construction d'un barrage et qui dit que les idées nouvelles avalent les cœurs et les esprits.
Oui, tout ça est dans notre monde. Nous vivons en fait dans un monde qui est divisé. Nous sommes divisés nous-mêmes dans notre esprit. Et c'est ces schismes que nous devons accepter. Et nous ne pouvons pas avoir de contradiction entre l'ancien et le nouveau, entre notre vie nomade et notre vie aujourd'hui. Dans notre culture, nous devons nous éloigner de toute schizophrénie. Et je crois qu'aujourd'hui, les Mauritaniens se sentent eux-mêmes héritiers d'hier. Ils vivent aujourd'hui et ils font un amalgame de tout cela.
Mariam Derwish, si je m'adresse à la lectrice que vous êtes, que diriez-vous sur cette thématique du monde d'avant, du monde actuel dans la littérature mauritanienne? Est-ce qu'il y a une tension ou au contraire il faut la dépasser, comme
alors,
le dit Beyrouk?
Moi je suis d'accord avec Beyrouk quand il dit qu'il faut la dépasser. Parce qu'il y en a certains qui écrivent encore dans cette espèce de lignée où, et je ne parle pas de Beyrouk, je parle d'autres auteurs, même en Afrique, où on nous dit avant c'était super, aujourd'hui c'est nul. Et puis ce grand mythe de la forêt africaine, de la savane africaine, avec le grand lion, le grand chef et ses épouses, ceci, et c'était super avant que le colon arrive. Non, moi je suis d'accord avec Beyrouk, il faut qu'on raconte comment chaque Mauritanien est arrivé avec son village, son campement, ses ancêtres, ses coutumes, ses langues en ville. La littérature, elle est vivante. On ne peut pas passer notre vie à pleurer quelque chose qui, en fait, n'a pas existé. Ça, c'est le rôle de la poésie, la nostalgie, parce qu'elle est tout le temps. Par exemple, dans la poésie hassanophone, la nostalgie du campement, la nostalgie du puits, mais souvent reliée à l'amour. À ce puits-là, il y avait une telle ou il y avait un tel. Et, en fait, nos ancêtres, ils ont fait comme nous. Ils ont transporté leur tente, leur chameau, leur femme sur les chameaux, et ils sont inscrits dans le temps. Et aujourd'hui, nous, leurs descendants, nous avons transporté et nous nous sommes inscrits dans le temps. Nous sommes dans le passé, dans le présent et en fait, nous sommes déjà dans le futur. Et on l'écrit, ça.
Alors nous sommes aussi dans l'enceinte de l'Institut français, le lycée français n'est pas loin non plus dans la ville, la librairie Vent du Sud, parce qu'à Nouakchott il y a plusieurs librairies, et chez Vent du Sud il y a un rayon papeterie, puis il y a plusieurs rayons livres. J'y ai fait un saut ce matin pour rencontrer Maïmouna Ba qui y travaille.
La librairie a été créée en 1994, ici en Mauritanie, c'était la seule librairie francophones ici de la Mauritanie. Depuis lors, c'est la seule librairie qui existe ici en Mauritanie. Il y a des francophones, il y a des étudiants, il y a des élèves. On a beaucoup de publics qui viennent ici souvent chercher des livres, des romans, des programmes de leurs écoles aussi.
Donc des très classiques, ouais. Racine, Rabelais, Beaumarchais. Ah, des auteurs contemporains quand même, Emmanuel Carrère. On les cherche, les romans contemporains. Ah, Marie Desplechin.
Ils lisent beaucoup. C'est des livres très intéressants aussi. Et là, on a un rayon, tout ce qui est enfant, tout ce qui est jeu pour les enfants.
Et ceux qui achètent des livres en français, est-ce qu'ils peuvent aussi acheter des livres en arabe?
Bah oui, il y a des gens qui achètent des livres. Il y a même des gens qui demandent même des livres en arabe. Avec les livres de Boulay, bah, celui qui traduit les livres aussi. Lui, souvent, il nous amène ici des dépôts ventes. On vend ce livre aussi en arabe. Comme par exemple l'exemple de Récit d'origine. Donc lui, il l'a traduit en arabe.
Oui, montrez-moi lequel. Récit d'origine, récit contribution à la connaissance du passé ouest saharien, Pierre Bonte. Mm-hmm. Et c'est un chercheur français.
Oui, c'est un chercheur français.
Est-ce que pour vous, c'est agréable de travailler avec les livres?
Oui, c'est très agréable. Parce qu'à chaque fois, quand je me sens seule, peut-être que je peux prendre un livre, un bouquin. Et là, tu te retrouves dans un autre monde qui est plus apaisant, qui est plus tranquille.
Et parfois, vous oubliez qu'il y a des clients qui arrivent.
Non, on n'oublie pas les clients qui arrivent parce qu'on est là pour les clients aussi. On est là et on les accueille avec des bras très ouverts. Donc, et très heureux aussi.
Lire et rêver à la librairie Vent du Sud à Nouakchott, je trouve ça toujours surprenant de savoir qu'on lit Racine ou Balzac si loin de Paris. Mais il faut préciser que ces auteurs sont au programme du lycée français et non pas au programme des lycées mauritaniens. Diaïssar, qu'est-ce que vous enseignez, vous, à l'université sur les littératures francophones? Balzac et Racine y passent aussi?
Non, j'enseigne surtout les littératures d'Afrique francophone. Surtout le roman marocain, le roman sénégalais et le roman mauritanien. Parce que je suis spécialiste du roman mauritanien francophone et ma thèse de doctorat porte sur la question de la révolte.
Et donc, cela a beaucoup évolué dans le temps, le roman mauritanien francophone?
Oui, ça a évolué et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur la Mauritanie d'avant. La première génération de romanciers mauritaniens francophones a produit un roman ethnographique, rejoignant ainsi toute la production romanesque africaine des années 50, quand même qui réagit à une certaine littérature et qui essaie de déconstruire une théorie, la fameuse théorie de la table rase, celle-là même qui a légitimé la colonisation. Donc il fallait produire, écrire des romans dans lesquels les romanciers décrivent les us et coutumes de leur société. Donc le fait que les romanciers abordent le passé, cela ne veut pas dire qu'ils s'enferment dans une certaine nostalgie. Mais non, c'était une manière pour eux de déconstruire la théorie de la table rase et pour justement démontrer que les Africains étaient civilisés jusqu'à la moelle des os, pour reprendre Léon Frobenius. Et ensuite, il y a eu une autre génération qui a produit des romans qui interrogent les dynamiques de la société mauritanienne, qui interrogent certaines évolutions de la société mauritanienne et qui dénoncent les violences politiques, celles-là même qui sont liées aux événements de 89.
Alors tout à l'heure, j'utilisais la formule que j'ai lue et entendue, le pays du million de poètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un mythe?
C'est vrai, les Mauritaniens de toute ethnie confondue sont très attachés à la poésie, que ce soit les Peuls, que ce soit les Wolofs, que ce soit les Soninkés, que ce soit les Maures. Donc oui, je crois que cette formule est très juste, la Mauritanie, le pays aux millions de poètes.
Beyrouk, vous en pensez quoi?
Je crois que cette formule a été utilisée pour la première fois par un journaliste kouaouatien au début des années 60, quand il est venu en Mauritanie. Elle était basée sur quoi? Elle m'a dit que, et c'est vrai, dans le désert, les gens, tout le monde essaie d'être poète. Et il y a souvent des joutes politiques entre les jeunes. C'est un jeu qu'on fait chaque soir sur la dune pour les jeunes femmes. Et puis, un jeune homme bien né, il faut qu'il chante sa dulcinée, sinon elle va se fâcher. Elle ne va pas être contente, n'est-ce pas, Mariam?
Non, mais c'est... Les sentiments passent par la poésie. Que ce soit la poésie amoureuse, comme ils disent, c'est la base. Hein. Les joutes oratoires, c'était la poésie amoureuse. Après, il y a d'autres poésies. Il y a la poésie religieuse, parce qu'il y a des chants de louange du prophète, hein, le maître, qui est, c'est une absolue beauté. Il y a la poésie guerrière, pour chanter le lignage. Ouais. Mais on revient toujours à l'amour, ce sentiment.
On oublie Tebra.
Cette petite poésie féminine de vers. Anonyme, dont la grande spécialiste de la traduction, c'est Aïchatou Metahmedou, qui l'a traduit magnifiquement bien. Et ça symbolise toute la poésie. Comment on crée d'un coup, entre personnes, hop, on fait des vers.
Alors, 1 million de poètes et quelques poétesses. Vous avez beaucoup publié dans les revues. Beaucoup de vos textes sont dans les anthologies, Mariam Derwish. Et vous m'avez promis la primeur de l'un de vos derniers texte, qu'en est-il?
Quelle belle question. Écrire parfois en minuscule, en horizon, en virgule, en point, en petit rien. Inhabité, habité, je suis. Au bout d'un cil, j'ai accroché la mer, rideau de pluie, rideau d'eau. Inhabité, habité, je suis. Dans l'étang spasme, le temps de rien, j'enferme en ma langue mon nom. Inhabité, habité, je suis. Au lointain des mots, j'entends les silences, mon absolu, ma rédemption, inhabité, habité, je suis. J'ai le cœur en banco, en argile, en sable, en dune, toujours ce battement qui s'enfuit, inhabité, habité, je suis. L'éphémère, l'imperceptible, trace d'un oiseau sur l'ombre de mon corps, mots à mots, silences à silences, je ramasse les vents morts, je les tresse à mes cheveux, à la vie. Mon âme devient orphelinat. Inhabité, habité, je suis. Balbutiement d'une inspiration. Je referme le rideau de pluie, le rideau d'eau. Inhabité, habité, je nais. Et à la mer, je retourne. Oh, merci, ça me fait beaucoup d'honneur.
Sous les applaudissements.
Voilà.
Qu'est-ce que vous en dites, Beyrouk?
Non, moi, j'aime beaucoup la poésie de Mariam. Malheureusement, elle ne publie pas beaucoup. Il y a ce seul recueil de poèmes que j'aime absolument. Et ce poème-là que j'aime beaucoup. C'est une poésie, c'est une très, très belle poésie. Je crois que le secret de Mariam, c'est qu'elle a vécu plusieurs cultures, plusieurs civilisations, qu'elle a été engagée, pas engagée, qu'elle a fait beaucoup de choses dans sa vie. Et ça, ça l'a remplie. En même temps, elle est, pour nous, les Mauritaniens, surtout nous, les gens du Nord, une derwiche qui est grande poétesse, ça n'a rien d'extraordinaire. Pour nous, c'est dans la tradition. Elle est dans la tradition de sa lignée, ainsi de suite.
On n'échappe jamais à sa
même
lignée,
si elle est un peu
surtout en Mauritanie.
Même si elle est malheureusement pour nous un peu trop révolutionnaire.
Est-ce qu'il existe une littérature, alors je ne sais pas à qui je m'adresse, une littérature féminine en Mauritanie? Je n'ose pas dire féministe, hein.
Oui, il existe une littérature féminine en Mauritanie. Et d'ailleurs, j'ai consacré un article à cette question, l'expression féminine dans la littérature mauritanienne. Elles existent, elles écrivent, même si elles ne sont pas nombreuses. Elles participent aux débats de société. Je peux citer, entre autres, Mariam Mint Derwish, qui est ici présente avec nous, Belinda Mohamed, Safiba, qui a publié les Chameaux de la haine, Kadiata Sall. Donc oui, et cette littérature féminine existe. Elle dénonce, si vous voulez, l'oppression des femmes, mais pas que. Elle participe aussi au débat de la société mauritanienne en tant que citoyenne à part entière.
Mariam Derwish, en préparant cette émission, vous m'avez dit « La Mauritanie, c'est un poème ». Et je me suis dit après, est-ce que c'est juste une formule pour dire la complexité du pays ou est-ce que finalement cette phrase est plus profond que ça?
Les deux. La Mauritanie, c'est un poème. C'est un poème parce que les Européens ne le voient pas. Même nos voisins ne comprennent pas d'où on vient. nous sommes sortis, pas de nulle part, parce que la colonisation a fait penser que nous étions sortis de nulle part. Nous étions disputés par le Maroc qui voulait une partie. Nous sommes les descendants d'anciens immenses empires comme l'empire du Ghana, par exemple. Et on nous a mis des frontières et il a bien fallu que nous vivions. Et que nous vivions dans cet environnement qui va du désert jusqu'au fleuve, du sec jusqu'à l'eau. Nous sommes l'eau et le feu, nous sommes le chaud et le froid, nous sommes ce mélange de gens qui ont vécu au milieu des criquets et en même temps au milieu des grandes épopées, au milieu des appétits politiques des voisins, au milieu des coups d'État un jour de l'armée, au milieu de ce monde qui est venu nous percuter. Imaginez, quand je dis que c'est un poème, vous savez, ça me fait penser à quoi ? À mon grand-père, Ya Rahmo. Mon grand-père, nomade toute sa vie. Ma grand-mère est morte en n'étant jamais montée dans une voiture. Jamais. Et on était à Chinguiti, donc chez les grands-parents. Et le soir, on regardait le ciel, je ne sais plus, c'était un soir comme ça. Et il y avait un satellite qui passait. Donc moi, très malicieusement, parce que on se moquait de son grand-père toujours, on est l'insolence des jeunes, je lui dis, grand-père, est-ce qu'il connaissait toutes les étoiles ? Je lui disais telle étoile, il me disait le nom, je fais ça, parce qu'il nomadisait sur des milliers de kilomètres. Et puis, il y a eu le satellite, donc j'ai fait un coup à mon cousin Germain, j'ai dit, attends, on va la voir. Et ça, c'est quoi ? Il dit, tu sais, ma fille, seul Dieu sait, un jour c'est apparu, c'est une étoile qui bouge. Ça, c'est de la poésie. Et il n'a jamais posé une autre question, un jour, une étoile a bougé. Et ça fait partie de la vie. Et sa vie a continué. Regardez, je vous en parle, j'en ai des frissons. C'est ça la poésie de la Mauritanie. Et ça a été pareil chez le petit paysan au fin fond du Guidimara. Un jour, il a vu apparaître une étoile qui bouge. Il n'en a pas fait un grand scandale. Il n'y a pas eu de grandes manifestations.
La littérature raconte un pays, Beyrouk, vous qui écrivez depuis plus de 20 ans sur ce pays.
Elle raconte des femmes, elle raconte des amours, elle raconte des rencontres, elle raconte des folies, elle raconte des passions. Elle raconte la vie. Elle raconte tout, la littérature.
Merci à vous trois, Beyrouk. Sarah est édité chez Elisade, comme le prochain roman qui est prévu au mois de mars, qui s'appellera comment ?
Le vieux fou et la petite fille qui n'était pas belle.
Quel titre ! Merci, Myriam Derwisch. On pourra vous lire au printemps aussi dans les Nouvelles de Mauritanie aux éditions Magellan et puis sur votre blog. Et merci à vous, professeur Ndiaye Sarr, pour nous avoir raconté en quelques minutes comme ça ce qu'était les littératures mauritaniennes. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Demain, nous nous retrouvons encore à Nouakchott pour une nouvelle conversation autour de la littérature et de la musique.